Vous écoutez La Troisième Rangée, votre podcast des sorties cinéma pour une critique de film au complet, bande-annonce.
I'm the only girl of my species. I'm the only one I ever saw.
He's young.
Yeah, he was just a newborn when it happened.
Do I have the plague?
No, we don't have the plague.
But just because people aren't getting sick anymore doesn't mean that the world is right again.
When will it be right again?
When it's balanced. And you know what? I kind of like it, just you and me.
Yeah, me too.
Light of My Life, excusez-moi, je fais le lancement en panique pour éviter une crise dans la rédaction entre Justin qui essaye de spoiler un match de foot, si j'ai bien compris, à Julien. Donc, Light of My Life, film de Casey Affleck avec Casey Affleck, Anna Apniowski et Elisabeth Moss, et je vais lancer Julien là-dessus.
Ok, le film se déroule dans un monde post-apo. Apparemment une espèce de peste a décimé une grande partie de la population féminine, et on suit les pérégrinations, on peut dire, d'un père et d'une fille, et forcément un père qui est très soucieux pour sa fille puisqu'il sait que
il n'y a plus beaucoup
de femmes sur Terre, donc forcément elle va attirer la convoitise des hommes en général. Donc elle a juste 11 ans, mais il est déjà dans un état d'esprit où, pour qu'elle puisse un jour pouvoir avoir une vie, déjà, dans un premier temps, il va falloir survivre. Et donc, il lui enseigne toute la rigueur nécessaire pour pouvoir s'en sortir, même si le jour où lui sera plus là pour la protéger. Donc, c'est un film ultra touchant sur un père vraiment qui fait tout pour sa fille, dans un monde un peu désespéré, où il ne reste plus grand-chose. On a tout ça jusqu'au moment où, finalement, c'est cette fille qui va à un moment devoir sauver son père. C'est un très beau film, parce que ça se focus essentiellement sur la relation entre le père et la fille, et comment il lui explique le monde. Non seulement donc la difficulté du monde d'aujourd'hui, mais aussi simplement comment est-ce que les gens peuvent réagir dans la vie. Donc il y a beaucoup de dialogues entre eux où elle pose beaucoup de questions et lui lui répond comme un père, en fait, qui essaie de vraiment l'informer le plus possible.
Oui, ce que j'ai trouvé très beau dans le film, c'est que finalement on a tout ce côté post-apocalyptique, mais finalement ça ne vient qu'amplifier quelque chose qui est assez universel, qui est la relation entre ce père et sa fille, un père seul qui doit élever sa fille dans un monde qui est dangereux. Alors bon, effectivement, on vit pas dans un monde où les femmes ont quasiment disparu de la surface de la planète, mais on vit quand même dans un monde où les violences sexistes, etc., c'est quelque chose qui existe bien, c'est quelque chose qui inquiète les pères. À côté de ça, il y a aussi toute la question de pas savoir ce que c'est que d'être une femme, avoir des doutes par rapport à ça, comment éduquer une fille. Il y a un passage où on voit, il va dans une bibliothèque et il trouve des livres sur comment éduquer une fille quand on est un père. C'est assez curieux parce que tu te dis, t'es dans une société post-apocalyptique et il se pose quand même des questions sur l'éducation genrée quelque part, alors que au final, sa fille pour pas être menacée, pour pas être sujet de convoitise, comme tu disais, elle se fait passer pour un garçon. Et il y a tout ce côté de il faut cacher le fait que c'est une fille, mais en même temps aussi le prendre en compte dans son éducation. Il y a notamment une scène qui est à la fois très drôle et très gênante où il essaye de lui expliquer globalement comment on fait des bébés, et puis un jour tu vas avoir tes règles et c'est normal, faut pas t'inquiéter.
Il lui déblatère tout d'un seul coup.
C'est ça, elle, on voit qu'elle est atterrée pendant toute la scène, mais c'est quelque chose de finalement très moderne encore aujourd'hui. Alors La différence, c'est que dans notre société aujourd'hui, un père seul attendrait peut-être pas que sa fille ait 11 ans pour lui expliquer comment on fait des bébés. Mais effectivement, dans une société où... Nam lève les yeux au ciel.
Oui, écoute, moi j'ai vu Carrie, elle a 17 ans, elle comprend c'est quoi les règles.
C'est vrai, voilà.
Chacun mais, ses standards.
Les règles peut-être, mais effectivement, bon, je pense qu'aujourd'hui tu vis dans une société où dans la cour de l'école, déjà à 7 ans, tes camarades se foutent de ta gueule si tu sais pas ce que c'est. Le sexe, parce que le premier, bien sûr, qui en entend parler, veut mettre ça dans le nez de tout le monde. Mais au fond, la problématique, elle reste la même de ce père qui est très gêné d'aborder ces sujets avec sa fille.
Qui déballe tout d'un seul coup, finalement.
Et d'ailleurs, ce qui marche très bien, et ça c'est quelque chose qu'il y a dans tout le film, mais on a en général des plans qui sont assez longs en caméra fixe. Ouais.
La scène d'ouverture.
Et là, à ce moment-là, c'est vraiment drôle parce qu'on voit vraiment le père s'embourber en direct, quoi, et s'enfoncer de plus en plus dans la gêne. Mais dans d'autres circonstances, ça va servir à vraiment faire ressentir l'angoisse qu'il peut avoir pour sa fille. Ça va créer soit de la tension, soit ce côté aussi très intime, la scène d'introduction dont tu parles, où il raconte une histoire à sa fille. On sent vraiment le lien se créer entre eux, justement grâce à ce montage qui est très économe en coupe et qui laisse vraiment
c'est
la place aux acteurs.
C'est une scène qui dure vraiment au moins 10 minutes, 10-15 minutes en plan fixe, en plongée.
Il y a peut-être une ou deux coupes dedans, je suis même plus sûre.
Je crois qu'il n'y a pas de coupe.
Elle lui pose une question au début du film d'ailleurs, que j'ai trouvé après coup, parce qu'au début on ne comprend pas forcément pourquoi elle pose cette question, mais... Elle lui demande si un jour elle pourra dire aux gens autour d'elle qu'elle est une femme. Mm. Et son père lui répond, tu pourras, mais c'est toi qui choisiras de le faire ou pas, quoi.
Ouais.
Et une fois le film fini, une fois qu'on... Parce que le film commence, ils sont dans cette tente. En tout cas, moi, je connaissais pas le pitch, donc j'apprenais au fur et à mesure. Ça pourrait juste être un père et une fille en camping qui passent un week-end ensemble. Ils lui racontent une histoire avant d'aller dormir. Et donc, le fait qu'elle pose cette question, c'est déjà un peu intriguant. Et après coup, je trouvais ça super beau qu'elle puisse poser cette question. Parce qu'elle se demande finalement si un jour, elle pourra assumer le fait qu'elle est une fille. Quoi.
Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. Parce que du coup, l'héroïne, effectivement, elle a 11 ans. Et la tension finalement du film, c'est-à-dire que c'est avec la puberté qui arrive, ça va être la dernière période où elle pourra encore se faire passer pour un garçon, puisque après forcément elle va avoir des formes féminines qui vont se dessiner, qui seront bien visibles, même en se coupant les cheveux, enfin sera plus facile de le deviner. D'ailleurs, il y a pas mal de
à savoir qu'elle arrive déjà plus quasiment
oui,
plus à
voilà,
faire passer pour une fille.
Généralement, oui, pas mal de gens de protagonistes le devinent instantanément entre dans les personnes qu'ils rencontrent, quoi. Et ce que j'ai dit, c'est la manière dont elle se crée cette identité féminine, comme tu disais. Donc le père essaie de l'éduquer de manière genrée, mais elle aussi, c'est-à-dire qu'il y a des éléments une fille s'identifie en tant que telle de manière genrée qui pourrait sembler peut-être cliché ou qui pourrait sembler dépassée aujourd'hui, mais dans ce contexte du film où elle y revient parce que c'est la seule manière de s'affirmer, je pense, quand elle va trouver une veste en jean avec des étoiles, où elle va essayer de mettre des vêtements un peu plus... un peu plus marqué féminin ou avec des couleurs roses plus marquées. Donc, alors c'est quelque chose de dépassé, d'identifier une fille de cette manière-là, mais dans ce contexte où l'identité féminine a été effacée, c'est la seule manière de finalement la faire exister pour elle intimement.
Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui m'a interrogé sur le moment de se dire, elle était toute petite au moment où l'épidémie a sévi, où le genre féminin a pratiquement été éradiqué. Et quelque part, d'où est-ce qu'elle tire cette culture, en fait, des jupes, des petits trucs
on
brillants.
On voit bien qu'ils vont dans des bibliothèques, il y a des magazines, magazines de mode, elle voit comment les femmes sont habillées. Je pense que... Même à un moment donné, je crois, il y a un magazine de mode, elle lui parle de sa taille, enfin la longueur de ses jambes. Puis il lui dit non, mais tes jambes elles sont longues du moment qu'elles touchent le sol, alors qu'elle voyait déjà des stéréotypes féminins en feuilletant un magazine de mode. Donc il y a quoi qu'on fasse, il y a une part d'identification féminine qui
qui passe par là malgré tout, même dans un monde post-apo finalement.
Et là encore, enfin encore un beau moment et quelque part universel de ce père qui trouve sa fille confrontée à des clichés justement sexistes sur à quoi une femme doit ressembler et doit l'apprendre à déconstruire ça. Ça se passe dans ce monde post-apocalyptique où elle trouve un magazine féminin qui lui dit que la taille idéale des jambes, c'est la moitié de la taille d'une femme. Mais ça se passe aussi au carrefour du coin, au rayon, au kiosque à journal, quoi. À journaux.
Le film pose pas mal de questions aussi, je trouve, sur la représentation des hommes. Il n'y a pas un seul personnage qu'il croise qui n'est pas suspect. À un moment de pouvoir vouloir enlever sa fille ou donc c'est
en gros à partir que du moment où c'est des hommes jeunes on va dire il y a une culpabilité ou il y a une suspicion. Le seul qui ne sera pas le cas sera le personne qui va les accueillir mais qui est déjà plus vieux quelqu'un de plus âgé, donc on peut dire qu'il n'a plus ce genre de pensée éventuellement à la fin du film, mais sinon...
Et encore quand même, il est quand même suspicieux hein, au début.
Bah, il est plus...
Moi, c'est avec les autres.
Mais je veux dire qu'il s'avère qu'il est, oui. Il est clean, alors que tous les autres protagonistes masculins, même on croise un personnage un peu plus jeune, même lui, bon, ouais. Il reste pas assez longtemps pour qu'on puisse pas se dire que même lui aurait pu avoir
un comportement. Cette scène, elle est très ambiguë parce que il parle des femmes qui sont dans un bunker et on n'arrive pas du tout à savoir si elles sont dans un bunker parce qu'elles sont faites prisonnières ou si elles sont dans un bunker pour les protéger en fait du monde extérieur. Donc, et il aborde ça d'une manière très
casual.
Cool,
Ah oui, on a même des femmes dans un bunker et tout. Tu devines que c'est un peu des deux, mais qu'il y a quand même bien le côté où elles sont prisonnières parce que justement, il te raconte tout fier que lui, il est gentil avec elles, il leur glisse des petits trucs, des chocolats, machin. Et en fait, c'est une scène assez intéressante parce que donc après ça, donc le personnage de Casey Affleck, en gros, elle lui fait un peu à l'envers, lui pique sa bagnole, etc. Il lui dit ce truc, ouais, il faut, enfin voilà quoi, désolé, j'ai pas le choix, mais il faut que tu nous aides. T'es un gars bien, Robert, tu me disais que que t'aidais les filles, que tu leur glissais des petits trucs, t'es un gars bien. Enfin, ça m'a un peu fait rire parce que ça me fait penser à toute la rhétorique des hommes qui se prétendent un peu alliés féministes parce qu'ils font des trucs, entre guillemets, un peu normal. Et j'avais un peu l'impression que le gars de Casey Affleck, tu vois, genre le confronter un peu à cette rhétorique-là.
Et surtout qu'ils le disent, c'est-à-dire c'est généralement ceux qui s'avèrent être souvent. On va découvrir des histoires sous le tapis qui s'avèrent les plus affirmatives pour raconter tout ce qu'ils font. Donc il y a quelque chose de... D'ailleurs, à propos de ça, d'ailleurs, moi, je me pose la question au niveau de Casey Affleck, qui s'est donné une sorte de personnage idéal là-dessus, un personnage de père idéal. Notamment, je pense à la fameuse scène où il raconte où il explique la sexualité
à
sa fille. Il y a un moment où il lui parle parce qu'il y a un protagoniste qu'il a rencontré qui leur a parlé de Chinois qui fabriquent
des bébés éprouvettes filles.
Est-ce que tu voudrais avoir des jouets avec des poupées jaunes Donc là, il lui explique que non. Il y a des gens qui disent. Donc en gros, il lui fait une leçon de. Un petit peu appuyé là-dessus. Et en plus, on est obligé de penser un peu parce que Casey Affleck, il y a quelques années, à l'époque de la sortie de Manchester by the Sea, avait eu des petits problèmes aussi par rapport à son comportement envers les femmes, notamment de harcèlement. Et du coup, c'est un peu bizarre qui se donne à un personnage un peu comme ça. Ça marche dans le film. En tout cas, si on s'arrête au film, c'est très bien. Mais après, si on pense son passif dans le privé, sachant qu'il a écrit le scénario aussi, on pense son passif dans le privé, on se demande si c'est pas une manière de se dédouaner ou de se racheter, enfin je sais pas, mais il y a quelque chose de ça auquel on a
C'est différent si c'est dédouané ou racheté. De manière de voir les choses.
Ce serait plus racheté vu que c'était avéré ces comportements qu'il a eu.
Disons qu'il y a, quand tu dis dédouané, on sent que c'est pas sincère, alors que si tu dis racheté. Pour moi, il y a une forme de sincérité.
Vu que le film, on va dire dédouané, vu que le film quand même semble assez sincère, on va lui donner le bénéfice du doute.
Et il y a un autre aspect que j'ai particulièrement aimé aussi, c'est le fait que les stratégies qu'ils utilisent pour survivre, c'est des stratégies de fuite. Et ils font toujours tout pour pouvoir fuir et pas avoir à se battre. Et je pense qu'il y a un aspect aussi là où il essaie de protéger sa fille le plus possible de la violence du monde. Et tout le film, en fait, est une énorme fuite. C'est, dès qu'il rencontre quelqu'un, il met tout en place pour pouvoir fuir le plus efficacement possible. Jusqu'à la fin, où la fuite n'est plus possible. Et là, c'est le climax du film, vraiment.
Mais dans cette attitude de fuite, il y a aussi quelque part de la paranoïa qui s'explique de par les circonstances du film. Mais de ne pas vouloir laisser sa chance à l'autre, d'être honnête. Ouais. Qui donc, effectivement, dans ce cas de post-apocalyptique, fait tout à fait sens, mais encore une fois, à transposer dans notre monde, c'est aussi cette image d'un père surprotecteur qui a peur de laisser sa fille partir, qui a peur de la laisser prendre son indépendance. Et finalement, c'est aussi ça, la fin du film, c'est le moment où on sent qu'il la surprotège, qu'il la laisse pas faire ses propres décisions, qu'il pense que tout doit reposer sur lui et que c'est à lui de protéger complètement sa fille. Et la fin du film, justement, ça, c'est sur ce début d'émancipation où c'est elle qui va quelque part lui désobéir et elle venir l'aider et elle prendre en charge une partie de tout ça. Et avec ce dernier plan qui est un peu appuyé, mais quand même très beau, où elle a une posture un peu maternelle avec lui, où lui caresser les cheveux et où tu sens vraiment que... elle aussi, elle est là pour le protéger, en fait, et c'est plus à sens unique, leur relation.
Mais ce que je trouve bien aussi, c'est le fait que on sent qu'il a une aversion pour les armes, et qu'il veut absolument éviter les armes. Et c'est loin de la mentalité américaine, où les armes sont justement une manière de se protéger.
Mais il s'avère que c'est inévitable dans le monde où ils vivent.
Et c'est pour ça que je... Que moi, ça m'a marqué le fait qu'un père qui veuille protéger sa fille, américain, en fait, rejette l'idée d'utiliser des armes parce qu'il sait que ça va être dangereux. Ouais. Et c'est une manière de la protéger de la violence du monde.
Ouais.
Le voir tuer des gens, c'est pas du tout l'image qu'il a envie de donner.
Il veut la protéger physiquement, mais aussi moralement. Quoi. Et ça, c'est... Même si parfois une des conséquences c'est de la laisser dans l'ignorance et un peu c'est toujours à nous le tranchant et le film parle de cette ligne justement entre jusqu'où est-ce que protéger quelqu'un c'est bien et à quel moment est-ce que ça devient contre-productif.
Et puis il y a le côté mine de rien, le côté post-apo, donc c'est quand même très épuré. Voilà, on traverse des routes enneigées, des forêts, des coins déserts, et malgré tout ce côté post-apo, il fonctionne quoi. On a... sentiment de désolation, de fin du monde.
La nature qui reprend ses droits.
Ouais, exactement.
Formellement, c'est un très beau film. Hein.
Ouais. On en parlait tout à l'heure off, mais c'est aussi un film qui rappelle beaucoup La Route. Où, là, pour le coup, c'était Viggo Mortensen avec son fils, qui, en plus, se charge de tout un discours social sur cette nature de femme dans une société où elle est devenue très rare. Mais en tout cas, on est dans cette filiation-là en termes de traitement, quelque chose qui est finalement assez contemplatif.
Moi, j'avais aussi comme référence The Last of Us, j'en parlais la semaine dernière, mais le premier The Last of Us, c'est un peu le même type d'histoire. Bon, dans The Last of Us, il y a des zombies, des infectés. Il faut retirer cette partie-là. Mais on a vraiment ce duo d'un supposé père et une fille. Et comment, en la protégeant tout au long de l'aventure, et à un moment ou à un autre... Les rôles doivent s'inverser et c'est elle qui doit venir en aide. Ça m'a fait aussi pas mal penser à ça. Il y a tout le côté nature aussi qu'il y a dans The Last of Us. Là, ils n'arrêtent pas de traverser des forêts. C'est vraiment des périples à travers la nature. Ils arrivent à la montagne, il fait froid.
Oui, d'ailleurs, je crois que le film a été en partie tourné pendant une tempête de neige. Donc, on est dans une nature qui est... Je dirais pas ouvertement hostile, mais c'est une nature qui a un peu repris ses droits. Même si on sait pas non plus dans quelle étendue, ça aussi c'est quelque chose qui m'a pas mal intriguée dans le film, parce que on sent qu'il s'isole pas mal du fait qu'il veut cacher l'identité de sa fille, etc. Mais qu'il y a quand même un semblant d'organisation humaine avec... avec une ville. On n'a pas le sentiment qu'il y ait une pénurie de nourriture. Mmh. Il y a quand même la société qui a plus ou moins continué, ouais. Mais dont lui cherche quand même... Lui, et c'est pas le seul d'ailleurs, mais fait sa vie en marge de ça.
Mais pour lui, là, c'est, d'ailleurs, c'est vrai que c'est à double tranchant, parce que la nature est finalement un refuge. Parce que aller s'installer dans une maison, on le voit à un moment dans le film, finalement c'est dangereux. Il y a forcément des gens à un moment qui vont savoir qu'ils habitent là, et finalement bah, lui il préfère vivre dans la nature, être mobile. Donc la nature a un peu ce double rôle où effectivement survivre dans la nature c'est pas facile, mais en même temps survivre dans la société,
oui, ça
a l'air encore plus dur, sachant qu'il a une fille.
C'est ça, c'est en voyant à cette méfiance vis-à-vis de la société, vis-à-vis d'autrui, finalement ce film illustre bien l'enfer c'est les autres de Sartre, hein. On peut pas vivre avec eux, on peut pas vivre sans eux, c'est Light of My Life nous dit un petit peu ça aussi. Et je vais donc conclure sur Sartre, c'est une bonne conclusion, merci à vous pour ce débat.
La troisième rangée, c'est votre podcast bi-hebdomadaire sur les sorties cinéma du moment. Critique, analyse, débat, quiz, coup de cœur, films méconnus et invités de marque. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, Castbox, Podcast Addict, Soundcloud, Deezer, Spotify et n'importe quelle application de podcast. Abonnez-vous également à nos comptes Twitter et Facebook pour ne rien rater de nos nouveaux épisodes et de nos annonces. Bonne écoute et bon film.